Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'équation de quantité de mouvement de Cauchy. Mais pour commencer, je voudrais que nous démontrions le théorème de Reynolds. Ce théorème est un théorème de conservation qui provient de l'équation écrite à l'écran que nous avions démontrée dans une précédente vidéo à partir de la règle de Leibniz. Et nous l'avons déjà utilisé pour démontrer l'équation de continuité, c'est-à-dire l'équation que voici, d rond rho sur d rond t plus divergence de rho u égale 0. Nous avions obtenu cette équation en remplaçant tout simplement a par rho, puisque ceci est vrai pour tout champ a, et en disant que comme c'est vrai pour tout volume de contrôle oméga, c'est vrai en tout point, donc ça nous avait permis d'aboutir à l'équation que je viens d'écrire. Et maintenant, reprenons le théorème de Reynolds, mais appliquons-le à une quantité a que je vais écrire sous la forme rho fois b. Dans ce cas, nous voyons que cette loi va s'écrire de la manière suivante. Dérivée de l'intégrale de rho b sur le volume de contrôle égale l'intégrale sur ce même volume de la quantité entre parenthèses en remplaçant a par rho fois b. Si bien que je peux écrire ça a fois d rond rho sur d rond t plus rho fois d rond a sur d rond t plus divergence de AU, c'est-à-dire de rho BU, ce qu'on peut mettre sous la forme suivante, divergence de rho BU, donc je vais l'écrire comme la dérivée d'un produit, c'est-à-dire faire apparaître deux termes, nous aurons il faut que je sorte quelque chose de la divergence, le tout c'est de ne pas se tromper, donc je vais l'écrire A fois divergence de rho U plus rho U scalaire gradient de A. Le tout fois d oméga. Donc, ce que je viens d'écrire ici est égal à divergence de AU, c'est-à-dire de rho BU. Bon, c'est un petit calcul tensoriel analogue à ce que nous avons fait dans les séances précédentes. Et maintenant, nous observons que ces deux termes-là se réunissent quand on les additionne pour donner A fois d rho sur dt plus div de rho u. Mais d rho sur dt plus div de rho u, nous avons vu que c'est nul. C'est l'équation qui se trouve ici. Donc ça nous donne 0. Quant aux deux autres termes, ils se réunissent également en multipliant par rho. C'est rho fois d rond a sur d rond t plus u scalaire gradient de a. Et maintenant, nous reconnaissons dans la parenthèse la dérivée lagrangienne de a. Sa dérivée partielle par rapport au temps plus le terme de convection u scalaire gradient a. Donc nous avons démontré le théorème suivant, que la dérivée par rapport au temps d'une intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée par rapport au temps, mais à condition de garder rho à l'extérieur de la dérivée dans l'intégrale. C'est le théorème de Reynolds, très important, et nous allons nous en servir pour démontrer l'équation de quantité de mouvement de Cauchy. Notez que ce théorème, finalement, est assez évident, entre guillemets, si l'on se rappelle que rho fois d oméga, la masse volumique fois l'élément de volume, c'est l'élément de masse qui se trouve contenu dans l'élément de volume d oméga. Et donc, finalement, cette relation provient du fait que DM est constant parce que j'ai considéré un volume d'intégration matérielle, donc lagrangien, qui bouge avec le milieu continu. Par conséquent, il est formé d'un ensemble de particules matérielles de masse constante. La dérivée de DM est égale à zéro. Et nous utilisons ici la conservation de la masse que nous avons fait dans la démonstration plus rigoureuse que j'ai donnée, puisque nous avons utilisé l'équation de continuité. Bon, retenons ce théorème et abordons maintenant l'équation de quantité de mouvement de Cauchy. Nous avons ici la quantité de mouvement, disons que je l'appelle grand P, contenue dans le volume des oméga, et nous savons que la dérivée de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces extérieures. Nous avons ici des forces qui sont de deux sortes. Dessinons mon patatoïde oméga, sa surface d rond oméga, en chaque point un vecteur n dirigé vers l'extérieur et unitaire. Et la première force que nous devons considérer en chaque point, c'est un effort de contact T. Et nous avons vu que T est égal à sigma fois n en un point donné, où sigma est le tenseur des contraintes de Cauchy. Donc nous voyons que la deuxième intégrale s'écrit intégrale sur le bord de oméga de sigma n fois l'élément de surface. Et nous savons par le théorème de Green-Ostrogradsky que c'est encore l'intégrale sur le volume de la divergence de sigma. Comme sigma est un tenseur, une matrice, sa divergence est un champ de vecteurs. Bien, à présent, appliquons le théorème de Reynolds que nous venons de démontrer, qui nous dit que la dérivée d'une intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée, mais en gardant ρ à l'extérieur de la dérivée dans l'intégrale. Et nous aboutissons à la somme, à l'égalité d'une intégrale de volume avec une deuxième intégrale de volume, à savoir divergence de sigma plus ρg, qui est la somme des deux intégrales du terme de droite. Et comme ceci est vrai pour tout volume de contrôle, on en déduit qu'on peut retirer les intégrales et en divisant par ρ, je vais obtenir du sur dt, c'est-à-dire d rond u sur d rond t plus gradient de u, qui est une matrice, fois le vecteur u, égale 1 sur ρ divergence de sigma plus g. Voilà l'équation que je souhaitais démontrer devant vous, qui est finalement ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique appliqué à un milieu continu. Cette équation est vraie, quel que soit le milieu continu retenu. Elle n'est pas fermée parce que nous avons plus d'inconnus que d'équations. En fait, ici, nous avons trois équations, comme c'est une équation vectorielle. Donc, en dimension 3, on peut la projeter sur x, y, z. Et nous voyons que, pour ce qui est des inconnus, nous en avons, j'allais dire, 6 de trop. C'est-à-dire le tenseur de Cauchy, qui se trouve ici, qui s'écrit sigma xx, sigma xy, sigma xz, et comme il est symétrique, je peux écrire sigma yx sous la forme sigma xy, sigma yy, sigma yz, sigma xz, sigma yz, sigma zz, et nous avons bien 6 inconnus supplémentaires. Par conséquent, il faudra, pour fermer cette équation, c'est-à-dire pour la rendre utilisable, se donner une loi de comportement, c'est-à-dire une relation constitutive permettant d'exprimer sigma en fonction de U ou de ses dérivés. C'est à ce prix que nous pourrons travailler sur un milieu de nature donnée, par exemple un fluide, un matériau comme un métal, un béton ou quelque chose d'autre. Donc cette équation de quantité de mouvement est valable quel que soit le milieu continu, mais telle qu'elle, elle est encore inutile. Il faudra rajouter des ingrédients pour aboutir à des équations utilisables pour l'ingénieur qui souhaite faire de la mécanique des milieux continus. N'oubliez pas de faire des exercices dans le poly.